RFI, il est 5h30 à Paris, 4h30 en temps universel. Et une demi-heure d'actualité africaine avec vous, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Juliette, bonjour à toutes et à tous.
Et le journal tout d'abord qui débute sur les efforts diplomatiques pour maintenir la paix au Soudan du Sud.
Première tentative de médiation après que les tensions ont éclaté à nouveau et après le placement en résidence surveillée du vice-président Riek Machar, tentative venue du Kenya, le président Ruto a envoyé un émissaire en la personne de Raila Odinga. Un accord signé ensuite dans l'est de la RDC pour permettre l'évacuation de la SAMI-DRC à Goma, la force de la communauté de développement d'Afrique australe, accord signé par l'AFCM23 et les représentants de la SADC. Le président somalien reçu en Turquie, Hassan Sher Mohamoud, a discuté sécurité et défense avec Recep Tayyip Erdogan au moment où les forces somaliennes patinent quelque peu face aux terroristes Shebab. Le projet avance malgré les alertes. Le projet d'oléoduc porté par ICOP entre l'Ouganda et la Tanzanie, une première tranche de financement vient d'être bouclée. Des promesses de dons records à Paris, 27 milliards de dollars pour lutter contre la malnutrition. Conclusion du sommet Nutrition for Growth, mais la société civile attend désormais des résultats, vous l'entendrez. Et puis la campagne électorale qui débute aujourd'hui au Gabon, avant l'élection présidentielle du 12 avril. On en parlera largement après le journal avec notre invité, notamment la professeure d'histoire d'Afrique subsaharienne Florence Bernot. Et l'actu sport est également au programme, comme tous les jours, sur la Radio du Monde. Soyez les bienvenus. Si le vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée mercredi au Soudan du Sud, c'est parce qu'il préparait une nouvelle rébellion, selon le porte-parole du gouvernement sud-soudanais, ministre de l'Information, hier à Djouba, Michael Makuei-Leyte, issu du camp du président Salva Kiir. Il affirme que Riek Machar fera l'objet d'une enquête et sera traduit en justice. C'est donc dans ce contexte de tensions résurgentes que le Kenya tente une médiation pour essayer de sauver l'accord de paix de 2018 conclu entre les deux hommes forts du Soudan du Sud. Le chef de l'État kényan a ainsi dépêché Raila Odinga hier à Djouba. Celui-ci n'a pas pu voir Riek Machar. Mais il s'est entretenu avec le président Salva Kiir. Cette discussion fut détaillée et constructive selon les mots de Raila Odinga à la sortie. Je vous propose justement de l'écouter.
Nous avons eu une discussion très approfondie avec le président Salva Kiir sur la situation sécuritaire et sur les raisons du problème. Il y a une inquiétude dans la région à propos de la situation sécuritaire dans ce pays. Le président Salva Kiir m'a fourni des explications et je vais aller faire un rapport aux autres chefs d'État de la région. La région est très inquiète de l'évolution de la situation au Soudan du Sud. Elle veut voir un retour à la normale et souhaite que ce pays joue un rôle actif dans la communauté d'Afrique de l'Est et dans le bloc régional IGAD. Nous avons donc espoir que cette question soit résolue dans le plus grand intérêt du peuple du Soudan du Sud et celui de la région.
Raila Odinga qui s'exprimait donc à Djouba hier. Il a ensuite rejoint l'Ouganda où il a rencontré le président Yoweri Museveni pour lui présenter justement son rapport suite à cette rencontre avec Salva Kiir. Un cessez-le-feu signé hier dans l'est de la RDC, signé à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, par l'AFC M23 qui a pris le contrôle de la ville en janvier et par des représentants de la SADC, accord prévoyant l'évacuation de la force de la communauté de développement d'Afrique australe telle que l'ont décidé les chefs d'État de l'organisation à Harare. Ces derniers ont en effet acté il y a 2 semaines la fin du mandat de la SAMI-DRC déployée dans l'Est congolais depuis décembre 2023. Ce cessez-le-feu vise donc à permettre un retrait dans de bonnes conditions, Lisa Fabian.
La signature de l'accord a eu lieu à l'hôtel Serena en présence de hauts gradés du Malawi, de Zambie, de Tanzanie et d'Afrique du Sud. Face à eux, le général-major Makenga Sultani menait la délégation de l'AFC M23. Parmi les résolutions, un cessez-le-feu et le retrait immédiat et sans condition des forces de la SADC présentes à Goma ont été décidés. Le communiqué final indique que ces militaires rentreront dans leur pays via l'aéroport international avec leurs armes et leurs équipements. Un comité conjoint chargé d'évaluer l'état de l'aéroport a été mis sur pied alors que la SADC s'est engagée à participer à la réparation des infrastructures. Ces travaux pourraient débuter d'ici une semaine pour accélérer les choses, selon l'AFC M23. Le chef d'état-major de l'armée sud-africaine a profité de ce déplacement pour visiter les troupes de la SAMI-RDC dans leur base autour de Goma. Fin février, le M23 avait déjà permis l'évacuation de soldats de la SADC grièvement blessés lors de l'offensive sur Goma, dans laquelle 14 soldats sud-africains ont perdu la vie.
Les explications de Lisa Fabian. Et dans le même temps, une réunion qui se tenait hier à Bunia, toujours dans l'est congolais, dans la province voisine de l'Ituri. Là-bas se sont rencontrés les chefs d'état-major de la RDC et de l'Ouganda. Ils ont discuté notamment de l'extension du mandat de l'opération Shuja, opération conjointe entre les deux pays, initialement mise sur pied pour lutter contre le groupe armé ADF. Une visite de 2 jours en Turquie, refermée hier par le président somalien à Ankara. Hassan Cher Mohamoud a échangé avec son homologue Recep Tayyip Erdogan, qui fait face à une large contestation en ce moment dans son pays. Mais cette rencontre était plutôt axée sur la situation somalienne, à l'heure où les troupes fédérales ont accusé quelques revers sur le terrain face aux islamistes Shebab. Une rencontre présidentielle organisée dans la précipitation, Gaël Lalex.
Le président Hassan Cher Mohamoud a eu un entretien fructueux avec son homologue turc. Ils ont notamment parlé de soutien à la sécurité, peut-on lire dans le point hebdomadaire du gouvernement somalien. C'est à l'invitation de Recep Tayyip Erdogan que le président somalien s'est rendu à Ankara. Pour cela, il a dû quitter l'état du Moyen Chabélé dans le sud-est du pays où les troupes fédérales et le groupe terroriste Al-Shabaab s'affrontent violemment. Mercredi, les terroristes ont récupéré la ville de Masji Ali Gadoud, libérée 2 ans plus tôt par l'armée. La Turquie et la Somalie ont signé un accord de défense en février 2024. Ankara est l'un des principaux fournisseurs d'armes de Mogadiscio. La semaine dernière, 2 drones de combat turcs ont notamment été livrés à la Somalie. Le marché de l'armement est extrêmement concurrentiel et les acheteurs privilégient les armes ayant prouvé leur efficacité en temps de guerre, explique Ahmed Abou Youssef, chercheur pour le centre Al-Ab Tour. Les armes turques sont ainsi testées en Somalie en espérant attirer d'autres acheteurs africains. Selon l'Institut international pour la paix de Stockholm, les ventes d'armes turques en Somalie ont été multipliées par 6 entre 2011 et 2021. 3. Gaël Alex Nairobi, RFI.
Moussa Dadis Camara, gracié en Guinée. Le général Mamadi Doumbouya a en effet décidé de lui accorder une grâce présidentielle. Moussa Dadis Camara, qui avait été condamné, je vous le rappelle, le 31 juillet dernier à 20 ans de réclusion pour crimes contre l'humanité pour sa responsabilité de commandement dans la commission des exactions de 2009 au Grand Stade de Conakry alors qu'il était au pouvoir. Annonce de cette grâce lue dans un décret à la télévision nationale guinéenne. Un projet pétrolier qui a provoqué des levées de boucliers mais qui suit tout de même son cours. Entre l'Ouganda et la Tanzanie, le chantier de l'oléoduc qui est porté par la société ICOP. Elle annonce avoir bouclé une première tranche de financement externe, projet dans lequel le groupe français Total Energy est actionnaire majoritaire avec 62% des parts. Les plans prévoient l'extraction du pétrole en Ouganda et son exportation via le plus long pipeline chauffé du monde. Coût estimé de cette opération, 10 milliards de dollars, mais également une lourde facture pour la nature et les populations locales selon de nombreuses associations. On fait le point sur l'avancement de ce chantier avec Charlotte Gosset.
C'est une étape importante pour ICOP, se réjouit la société. Cela démontre le soutien des institutions financières dans cette infrastructure régionale transformatrice, ajoute-t-elle. Cette première tranche de financement externe est réunie grâce à des institutions financières régionales, Afreximbank, la Standard Bank ou encore la Stanbic. S'y ajoutent les financements d'une branche de la Banque islamique de développement. Olivier Appert, conseiller au Centre Énergie et Climat de l'IFRI, y voit la volonté de consolider le projet par l'implication d'investisseurs locaux. C'est un premier pas qui devrait inciter les autres plus facilement maintenant, espère une source proche du dossier. Mais plusieurs questions restent en suspens, comme la liste complète des financeurs. Pour elle, c'est un manque de transparence qui semble confirmer les difficultés que Total Energy rencontre depuis des années pour financer ce projet. Une grande campagne Stop ICOP tente d'empêcher sa réalisation en visant notamment le secteur financier et les assurances. La société ICOP déclare que fin 2024, plus de 50% du projet a été exécuté et 500 millions de dollars dépensés.
Charlotte Cosset, le travail de mémoire à Madagascar, la grande île qui commémore aujourd'hui, samedi 29 mars, l'anniversaire de l'insurrection du 29 mars 1947. Ce jour-là, des insurgés malgaches se soulevaient contre les troupes coloniales françaises à Mouramang, à une centaine de kilomètres de la capitale, Antananarive. D'autres foyers de révolte suivront ensuite le long de la côte est de la Grande Île, épisode qui représente l'une des premières révoltes contre l'administration coloniale française en Afrique subsaharienne. 27 milliards de dollars promis pour lutter contre la malnutrition. Voilà donc la principale annonce du sommet Nutrition for Growth qui s'est refermé hier à Paris. Il a réuni pendant deux jours décideurs, secteurs privés et associatifs. Des promesses de dons records ont été enregistrées donc et saluées d'ailleurs par la société civile. Mais elle espère qu'il ne s'agira pas d'un énième effet d'annonce et attend désormais des résultats concrets. C'est ce qu'a constaté auprès de militantes notre envoyée spéciale Christina Okello.
Des annonces historiques, mais encore floues pour ceux qui, sur le terrain, voient le fin progresser. Agnès Kirabo, directrice de l'ONG Food Rights Alliance en Ouganda.
Ce que les gens veulent savoir, c'est combien d'enfants, combien de mères en âge de procréer ont été réellement sauvés de la malnutrition. On parle de milliards, mais sur le terrain, les gens continuent de mourir. Des enfants sombrent dans la faim, des femmes meurent lors de l'accouchement à cause de l'anémie. Ce que nous demandons, ce ne sont pas seulement des promesses, ce sont des résultats concrets, visibles, qui rendent leur dignité aux plus vulnérables.
Une critique récurrente, malgré les 27,55 milliards de dollars promis par des États, banques de développement et fondations privées. La Banque mondiale s'engage à hauteur de 5 milliards, la Banque africaine de développement à plus de 9, et des fonds iront ensuite renforcer les cantines scolaires. Mais pour la société civile, la transparence reste clé. Solange Koné, cofondatrice de l'association ASAPSU en Côte d'Ivoire.
On peut saluer le sommet, on peut dire que vraiment c'est un succès. Mais il faut reconnaître aussi que c'est des promesses. Est-ce que les promesses vont rentrer, elles toutes? On n'en sait rien. Il faut que ceux qui reçoivent les fonds fassent en sorte que leur utilisation, l'utilisation des fonds donne confiance.
Un appel que les organisateurs disent avoir entendu. Les engagements seront désormais suivis via la plateforme Global Nutrition Report, une tentative pour garantir que ces promesses ne restent pas lettre morte.
Christina Okello sur RFI, 5h41 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI. Sébastien Duhamel.
Restez avec nous, bien sûr, RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem dans un petit peu plus de 12 minutes. Mais avant cela, le temps de la campagne électorale qui débutera aujourd'hui au Gabon. 8 candidats pour la présidentielle du 12 avril, censés refermer la transition. On ira